les rendez-vous de Rosendo. Les rendez-vous de Rosendo, tous les dimanches à 13h, rediffusion le mardi à 23h. Et aujourd'hui, Rosendo, tu reçois Christian André Acquier.
Bonjour à tous et bienvenue à notre rendez-vous hebdomadaire. Je reçois effectivement Christian André Acquier, sculpteur depuis plus de 30 ans, sculpteur professionnel depuis plus de 30 ans, entre autres parce que lui, il fait aussi des recherches et travaux théoriques donnant lieu à conférences, publications, et il est pédagogue et formateur pour les grands publics et aussi des professionnels dans l'espace Bourdel et par ailleurs. Il a aussi une activité promotionnelle en tant que commissaire organisateur des manifestations autour de la sculpture, bon, entre autres, parce que son CV est tellement vaste et dense que je ne pourrais pas le résumer. Donc on va passer tout de suite à donner la bienvenue à Christian André Acquier. Bonjour Christian.
Bonjour Rosendo, et je voudrais saluer bien sûr CFM qui nous reçoit, hein, je suis assez familier de cette radio dynamique, et te rendre hommage aux Indo ce travail et ces invitations qui demandent un temps de préparation, puis une manière aussi d'illustrer la place de la culture et des acteurs culturels dans cette ville.
Mais justement, tu es là en tant qu'acteur et créateur culturel, Christian.
Alors, tu as fait une petite présentation, en effet.
C'est pas exhaustive, hein.
Oui, parce que j'ai un parcours assez éclectique dans les apparences.
Qui parfois pourrait être un rapproche, hein.
Et oui, ça peut l'être, comme on dit, pierre qui roule n'amasse pas mousse. moi, je crois le contraire, dans la mesure où on voit au bout des choses. Je vais pas reprendre mon CV, mais enfin, j'ai été beaucoup, beaucoup marqué par à la fois et l'écriture et la danse. J'ai 30 ans de danse en tant que chorégraphe, prof de danse, etc. Je travaillais à l'École française d'art chorégraphique. Et la danse, il me manquait quelque chose, justement, qui traduise le mouvement. Et je suis venu relativement tard à la sculpture, tout en poursuivant ces études, ce travail chorégraphique. Je suis auteur-compositeur par ailleurs, donc la musique également a su me séduire. Petit musicien.
Quel instrument tu joues?
Mais bon, j'ai eu quelques privilèges. J'ai chanté avec Mouloudji, enfin en première partie Mouloudji, ce qui est et surtout très sensible, bien sûr, à la poésie, à l'écriture, je dirais, musicale et poétique.
Donc, Christian, excuse-moi, mais tu as dû être flatté alors cette année, plutôt ce mois-ci, parce qu'il y a eu une confrontation, ou plutôt une complicité, une communion entre la danse et les sculptures.
Absolument. Alors, il se trouve qu'Alain Marty, que je connais bien, bien entendu, puisque lui, il était à l'Opéra, à l'École française d'art chorégraphique, qui est une sorte d'annexe à l'Opéra.
Oui, je parle des festivals qu'il y a eu
récemment. Et donc, en effet, il m'a proposé d'illustrer, en quelque sorte, cette rencontre possible entre la danse et la sculpture. Alors, c'est sûr que ça peut paraître une gageure. En réalité, je lui ai proposé de travailler sur le thème, justement, commun, qui est la main. La main du danseur, c'est le prolongement du geste, une manière d'aller ailleurs. Pour le sculpteur, c'est l'instrument premier. Le geste, comme disait le roi Gourand, le geste et la parole.
Oui, l'artisan propre.
Une manière d'avoir un rapport à la matière.
Oui, mais je pourrais te dire aussi que plutôt que la main pour les danseurs, c'est le pied. Prends mon pied.
Oui, ça, ce sont les appuis.
Oui.
Pour nous, sculpteurs, il nous faut les socles également. Mmh. Mais j'ai pensé que cette poétique de la main, en quelque sorte, mmh. hein, pouvait être, je dirais, dans l'élégance et la légèreté. Mmh. Hein, et d'ailleurs, j'ai fait une sorte de performance à la Maison du Crieur,
oui.
hein, où je fais une sorte de chorégraphie de main modelée. Hein, où j'ai monté donc des mains, deux mains que j'ai associées chorégraphiquement, évidemment en faisant quelques rappels à des œuvres référentes, hein, notamment le Boléro de Ravel avec des positions un peu particulières, ça c'est pour la danse, mais aussi ce que bon si les auditeurs connaissent un peu Rodin, ce qu'on appelle la cathédrale ou le secret, ce sont deux mains associées qui se touchent à peine comme une sorte de prière de tabernacle en quelque sorte, hein, voilà.
Oui, et Christian, étant donné que tu es danseur, parce que même si tu fais plus de sculpture maintenant que la danse, et comment, tout jeune, tu as pu basculer ou peut-être que avancer de manière parallèle la danse et la sculpture?
De manière parallèle.
Oui, de manière parallèle. Et maintenant que tu continues à avoir ces regards critiques vis-à-vis de la danse, j'aimerais savoir quel est ton ressenti vis-à-vis de ce qui a été réalisé ces mois-ci, dans le festival de danse qui a eu à Montauban. Donc, parce que
j'y étais associé. Donc.
Oui, oui, tu étais associé. Oui, bien sûr. Puisque tu es associé, on pourrait dire non, mais Christian va pas dire nécessairement du mal. Mais j'aimerais que tu puisses donner ton regard critique, de bien
oui.
ou de mal.
Alors, oui. Notamment, il y a eu, c'était à Rythmie. Bon, il y a eu différentes séquences. D'abord, j'ai salué cette initiative de faire une rencontre d'hiver, en quelque sorte, surtout dans le raccourci, une semaine. Mmh. Ne pas étaler les choses, leur donner une certaine densité. Et ça permettait, justement, de mettre bien en relief cette thématique du corps, vous voyez, comme une sorte d'appui pour sculpturalement donner à l'espace toute sa densité, toute sa dimension. Et là, les illustrations, vraiment, les différents ballets, il y a Nantes qui sont venus, là,
oui, le Centre National de Nantes.
Et
oui.
surtout, j'ai beaucoup apprécié les Coréens.
Oui.
Je m'excuse à la chorégraphe que j'ai rencontrée d'ailleurs, je ne me souviens plus de son nom, qu'elle m'excuse, mais c'était tout à fait remarquable, très surprenant, d'une grande retenue à la fois, et justement par cette retenue, donner à l'espace toutes ses potentialités. Mmh. J'ai beaucoup apprécié. C'est pas du tout de la flagornerie, de
oui.
la.
Alors,
pas du tout. Je sais dire quand je.
Oui, alors j'ai été témoigné un sentiment
la
parce
pas
que
moi.
J'ai assisté aussi à ce festival et surtout à la présentation officielle du premier
oui.
jour où il y a eu une vidéo, la projection d'une synthèse
oui.
où le Centre National de Chorégraphie de Nantes a fait a retransmis par la vidéo, une vidéoprojection, des extraits d'une chorégraphie réalisée au musée de Bourdel à Paris.
Oui.
Et le sujet, c'était justement Antoine Bourdel, qu'on va parler plus tard.
Oui, oui, oui.
Mais je trouvais que si bien il avait été inspiré, les chorégraphes avaient été inspirés par les sculptures, les sculptures de Bourdel, je m'entends, et je trouvais qu'il y avait certaines poses qui faisaient référence au centaure, à l'Héraclès, mais en réalité c'était universel quand même, c'est-à-dire je me demande aussi ponctuer ou représenter parfois d'une manière trop figurative ou trop illustrative en des sculptures majeures de Bourdel, et ne faisait plutôt pour flatter un peu le goût de Montalbanais, pour dire bon, ça justifie que l'association,
je le crois
mais,
pas.
Mais l'ensemble, il me semblait que c'était plutôt universel.
Mais j'abonde dans ton sens. Il s'agit pas, quand on fait, il faut s'inspirer des choses. On n'a pas la prétention à refaire le monde. Hein. Donc il y a des référents. Et quand on s'inspire de Bourdel, il ne s'agit pas de faire du sous-Bourdel. Je rappellerai, bon, je le fais tout de suite, Bourdel a eu des élèves qui sont devenus eux-mêmes des référents dans le domaine de la sculpture. Je pense à un que tout le monde connaît, Giacometti. C'est Bourdel qui l'a formé à la Grande Chaumière. Hein. Jamais Giacometti n'a fait du Bourdel. Mais il s'est inspiré d'une pensée prospective. Oui. Germaine Richier, Hajdu, Vieira da Silva, enfin j'en citerai des gens qui font référent dans l'ère moderne, on va dire. Hein. Bon. Et là, je reprocherai en effet à cette traduction, on va dire, quelque chose où il manque justement la symbolique plutôt que le réalisme.
Кто-то высмотрел плод, что не спел, не спел. Потрусили за ствол, он упал, упал. Вот вам песня о том, кто не спел, не спел. И что голос имел, не узнал, не узнал. Может, были с судьбой не лады, не лады. И со случаем плохи дела. А тугая струна на лады, с незаметным изъяном легла. Он начал робко с ноты до, но не допел ее не до, не дозвучал его аккорд, аккорд, и никого не вдохновил. Собака лаяла, а кот мышей ловил. Смешно, не правда ли, смешно, смешно. А он шутил, не дошутил. Не дораспробовал вино. И даже не допригубил. Он пока лишь затеивал спор, спор, неуверенно и не спеша, не спеша, словно капельки пота и спор, и спор, из-под кожи сочилась душа, душа. Только начал дуэль на ковре, на ковре, еле-еле едва приступил, приступил. Лишь чуть-чуть осмотрелся в игре, в игре. И судья еще счет не открыл. Он знать хотел все от и до.
Eh bien, nous venons d'entendre Vladimir Vysotsky. Les auditeurs le connaissent-ils? Il y a un passage dans Soleil de nuit, un film où justement... bon, je ne vais pas résumer le film. C'est des transfus. C'est un chanteur, auteur, compositeur russe qui a ce sens de la révolte, du déchirement, la douleur d'être. Et ça illustrerait peut-être dans le domaine de l'art. Ce qui peut aussi déchirer dans le domaine créatif. Quand on crée, on n'est pas forcément joyeux. Il y a toujours, c'est toujours un peu douloureux.
Mais comment c'est, parce comment que, un vol arrêté, non?
Parce que...
Qu'est-ce que c'est le titre de la...
Le titre de l'œuvre, c'est le vol arrêté.
Le vol arrêté, oui.
Et c'est vrai qu'il y a là, c'est pour ça que j'ai choisi ce morceau.
Parce que
il y a, me semble-t-il, là, ce premier sentiment, qui est un sentiment de mâchure, devant les choses, voilà.
Merci, Christian. Donc, on va continuer avec ton œuvre, ton parcours. Et tu as choisi, une de tes œuvres, à commenter, qui Et se trouve à Montauban, bon, tu as dans tous les départements, et tu as aussi des œuvres dans les musées d'Allemagne, de Belgique, et aussi en dehors d'Europe. Oui. Bon. Et donc, comme notre émission est limitée, nous ne pouvons pas aborder toutes, et parmi ces œuvres, et je suis content que tu aies choisi une œuvre qui se trouve à Montauban, dont tous les auditeurs pourront y accéder, et j'espère aussi que une délégation des jeunes espagnols qui arrive à Montauban cette semaine, à qui je dédie cette émission, et puisse la visiter, cette, ton œuvre. Pourquoi? Parce que tu as choisi donc l'hommage à Manuel Azaña. C'est une œuvre dans laquelle je vais me permettre de me parler et que tu vas me compléter ou corriger, rectifier. Et donc je répète que cette émission, je la dédie à une jeune délégation de lycéens et collégiens qui viennent de Teruel et qui sont correspondants de collèges et de lycées, collèges Ingres et lycée Michelet. Donc l'œuvre, c'est une stèle mémoriale qui est posée sur la tombe de Manuel Azaña, le président de l'Espagne, de la deuxième République espagnole, et président entre 36 et 39. Et je ne vais pas parler trop du côté historique, peut-être que je peux te laisser les soins de compléter, mais je vais parler plutôt du côté artistique, pour abrévier. Donc, c'est une pierre qui montre une, par métaphore, plutôt par allégorie montre une déchirure, et c'est le titre de ton œuvre, et dans cette ouverture, un V, existe la l'arme représentée par le vert, qui est teinté de différentes couleurs, mais surtout, il y a une alarme qui se pose et qui découle de cette pièce en vert incrustée dans la stèle. Et en même temps que je décris piètrement cette œuvre, je fais un commentaire pour te susciter, pour te provoquer. Nous nous connaissons, Christian. On a une grande familiarité avec ton œuvre, et c'est pour cela que je me permets de la commenter. Donc, les sentiments que j'ai en voyant cette œuvre, plutôt qu'une déchirure, je sentais qu'il y avait plutôt une ouverture, et le verre ne s'est intégré pas dans toute l'œuvre comme partie de la déchirure, mais plutôt comme une ouverture. Peut-être que tu vas me dire, ah, c'est tant mieux, je sais pas. Mais la pièce en pierre, elle se déchire pas pour moi, elle s'ouvre, et le verre, il est encastré. Voilà. Donc, ça, bien évidemment, c'est une vision complètement subjective et que c'est pour te faire sursauter. Et voilà, c'est à toi maintenant.
Il y a des petits éléments d'appréciation qui sont assez justes, d'autres qui sont un peu restrictifs. Bon, le titre de l'œuvre, bien sûr, la déchirure. La déchirure, pourquoi? Quand on m'a demandé de travailler sur le sujet, Manuel Azaña, le dernier président de la République espagnole, qui est mort à Montauban, 1940, réfugié, donc, dont les services franco cherchaient à récupérer, etc.
Oui, il est certain, il a même s'échappé sur le toit.
La bonne idée de mourir avant d'être récupéré par les sbires de Franco, et ensuite, évidemment, par les collaborateurs, la collaboration, le régime de Vichy. Alors moi, toute œuvre pour moi doit, digne de ce nom, doit contenir une symbolique qui peut ne pas être forcément lisible au premier regard. C'est Raphaël qui disait, je crois, regarde une fois pour voir beau, regarde deux fois pour voir vrai. Moi, c'est à méditer. Et toute œuvre donc digne de ce nom, me semble-t-il, doit receler une symbolique. Quelle est la symbolique à travers la déchirure? C'est la déchirure d'un peuple que j'ai voulu traduire. Mais cette déchirure, à travers cette faille rocheuse qui s'élève, il y a à la fois une ambiguïté, parce qu'à la fois, il y a la verticale, les larmes dont tu viens de parler, comme une goutte de sang également, puisqu'il y a du rouge. Donc il y a la larme, il y a le sang, mais il y a aussi l'espoir. Et l'espoir, c'est en effet cette ouverture dont tu parlais, vers le haut. Avec ce côté un peu déchiqueté du verre, qui offre une capacité de liberté vers un espace à créer dans sa tête, bien sûr. D'ailleurs, je l'ai sous-titré de larmes et de sang pour que vive la République. Je suis un républicain convaincu. Mon père était résistant. Je suis né des hasards de la guerre, d'ailleurs, à Montauban. Il a connu républicains espagnols qui se sont joints, d'ailleurs, à la résistance. Donc j'ai été particulièrement touché et sensible. Je suis très sensible à cette période, bien sûr, compte tenu de mon ascendance. Et voilà, donc quand on m'a demandé, alors, bien sûr, comment dirais-je, Manuel Azaña, c'est aussi un symbole. Alors, au départ, on m'avait demandé de faire le portrait que j'ai fait, par ailleurs, pour le collège Manuel Azaña. Mais je ne voulais pas, et ce qui me fait vraiment chaud au cœur, j'ai rencontré des Espagnols, des gens qui n'étaient pas forcément très cultivés, qui n'avaient pas, mais qui ont compris tout de suite le message. Et ça, pour un artiste, c'est quand même quelque chose qui fait chaud au cœur.
Cette stèle a été inaugurée le 25 octobre 2008. Je te remercie, Christian, de m'avoir fait parvenir les textes en entier de François-Henri Soulier.
Oui.
Et aussi, il y a un découpage de presse de El País, complètement en espagnol, donc je vais me permettre de lire en espagnol. Les auditeurs vont me comprendre moyennement, mais je vais lire seulement deux petites lignes pour que vous voyez le caractère international et la répercussion de cette œuvre. Oui. J'invite tous les Montalbanais, à tous ceux qui nous écoutent, à visiter, et bien sûr, l'œuvre au cimetière urbain de Montauban. Donc voici, ce n'est qu'un extrait. Hein. Le titre, c'est dans El País, Azaña ya tiene tumba digna. En Montauban. Francia realza el lugar donde yace el expresidente español. Y le petit extrait dit comme ça, la lápida de granito con el nombre del difunto, los años que vivió, 1880-1940, y el descolorido escudo de España tapados, a veces por unas rosas de plástico con los colores de la República, han quedado enaltecidos por este monumento. Donc, Christian, je reviens à toi et à Manuel Azaña aussi, parce que partie de ton œuvre est représentée aussi dans un médaillon. Donc, le médaillon Manuel Azaña, encore Manuel Azaña, oui. Et au collège Azaña. Donc, tu as réalisé ce médaillon. Alors, je reviens là-dessus parce que, toujours dans le titre artistique, même si j'aimerais développer encore les côtés historiques et le contexte. Parce que il y a eu un praticien, une praticienne, pour être plus précis, de l'espace Brudel que tu animes, et qui m'a transmis une question, donc elle m'écoute actuellement, et me dit, pose-lui cette question. Christian fait du bon boulot en tant qu'artiste et en tant que pédagogue. Et il nous encourage chaque fois à que dès qu'on finit une œuvre ou une période, d'échanger. Alors pourquoi lui, Christian Andrea, qui, il ne change pas du verre et du bois? Depuis longtemps, il est avec le verre, les bois tordus. Alors qu'est-ce qu'il va nous répondre, Christian Andrea?
Alors, je lui achèterai des lunettes.
Allez. développe.
Non, le deux propos, je l'ai dit tout à l'heure, mais je préfère le redire ici. Et ce que je dis à mes praticiens, là, c'est qu'il faut épuiser un sujet. Il faut aller au bout d'un sujet. Et tant qu'on n'a pas épuisé le sujet, hein, il faut poursuivre cette quête. Alors, je sais qu'il est de mode dans l'art dit contemporain, excusez-moi, de faire la plus grande chaussette du monde, puis de passer à quelques jeux de manches verbeux pour des installations fumeuses. donc ça fait, il faut être dans la mode, hein, du changement, du mouvement. Hein, comme disait quelqu'un, le changement c'est maintenant. Bon, c'est bien que le changement c'est bien sûr en permanence, mais dans ce changement, il y a justement des permanences. Hein, il y a des choses intangibles. Depuis la nuit des temps, nos grands ancêtres nous ont montré quelques voies. Dans les grottes ornées, dans les stèles, etc. Et d'ailleurs dans toutes les sociétés. Bon. Et ces gens justement ont posé là des jalons que nous avons le devoir nous, à la fois de reprendre, nous en inspirer, parce que c'est très prétentieux de prétendre justement créer d'autres concepts, ils sont tous là, mais à partir du moment où on parle le langage de son temps, avec les technologies de son temps, on a le devoir justement d'explorer, de poursuivre tout un travail. Alors, au niveau de la matière, tout un travail, je dirais, de recherche.
Excuse-moi, Christian, mais pour donner la réponse à, sur les lunettes, parce que tu as parlé des lunettes, donner des lunettes à cette personne qui te lance cette question, un peu critique. Donc, les lunettes qu'il faudrait qu'il ou elle se pose, c'est pour voir d'autres travaux que tu fais toi-même, parce que c'était adressé à ton œuvre.
Oui,
alors, par exemple, qu'est-ce que tu pourrais lui dire?
Bon, je vais pas m'étaler, de toute façon. Bon, j'ai eu suffisamment, jusqu'à présent, quand même, quelques commandes, des commandes. Tu as fait référence à mon, ma présence, comment dirais-je, dans des collections privées ou publiques, en effet, bon, j'ai des œuvres, un peu partout dans le monde, donc je veux dire, mes travaux, j'ai pas commencé avec le verre, et je finirai pas avec le verre. Mm-hmm. Je travaillais tous les matériaux. Le propre de la sculpture, il faut avoir un appétit de matière.
Oui, justement, Christian, et je vais dans ton sens parce que tu as travaillé les bronzes aussi.
Oui, bien sûr.
Et je reviens à Manuel Assagne, donc j'ai pas perdu le fil, parce que les bronzes que tu as fait, et pour les portraits d'Emmanuel Assagne, parce qu'il s'agit d'un portrait
figuratif,
oui. Mais alors, tu parlais d'une impermanence, c'est-à-dire dans l'épuisement de sujet ou dans la recherche, dans la quête exhaustive d'un sujet et pour les matériaux et par les sujets. Et donc, tu es plus connu actuellement par ton travail de verre, par ton travail de bois, mais il y a aussi les bronzes. Donc, les bronzes là.
Pourquoi? Mais il y a aussi la pierre.
Oui, j'ai la pierre,
j'ai commencé
les végétaux aussi, les végétaux.
Voilà. J'ai commencé par la taille directe pierre.
Oui, parlons-y, Christian, sur les bronzes là d'Emmanuel Assagne. Pourquoi j'étais surpris de voir dans cette photo de ces médaillons un travail tout à fait figuratif, presque académique, Christian.
Ah, voilà.
Alors pourquoi passer comme ça de coq à l'âne, comme ça?
Ah non, de l'âne au coq, plutôt. Bon. Non, voilà encore des choses où je m'inscris en faux. Il n'y a pas pour moi de figuratif ou d'abstrait. Ça, c'est quelque chose qu'il faut mettre à l'index. Il y a un authentique travail symbolique. Par exemple, le portrait que j'ai fait là de Manuel Assagne. Le portrait de Manuel Assagne, j'avais fait d'autres. Mais pour celui-ci, attends.
Il n'y a pas ta griffe.
J'ai. Si. Il y a. il y a une traduction à travers ce portrait. Hein. Il avait un visage qui n'était pas gratifiant, trop gratifiant. Donc le traitement, hein, un peu rondouillard, un peu voilà. Donc le traitement que j'ai fait, je l'ai traité de façon, hein, avec des plans serrés, hein, pour faire vibrer un peu la matière. Le regard, c'est pas cadeau en plus, parce que les lunettes là, hein, sur un portrait en bronze, c'est pas simple. Hein, bon. Donc il fallait, je trouve, un subterfuge, hein, pour les rapprocher. En plus, c'est une mètre ronde de l'époque, etc. Le regard, ce regard est un regard un peu interrogateur, hein, et un regard intérieur. Hein. Et quant à la bouche, hein, c'est que j'ai légèrement, ouais, c'est la bouche, la parole également. Donc, à travers, hein, bien sûr, il faut bien qu'il y ait une ressemblance. Les gens ont besoin de ressemblance. Bon, mais quand Bourdelle, hein, traduit l'Héraclès Archer, hein, pour moi, il y a autant de validité, hein, virtuelle, hein, et abstraite dans cette œuvre, alors que, évidemment, hein, tout le monde voit, hein, un corps tendu, on repère une tête, hein, qui n'est pas une tête d'ailleurs, hein, qui est un substitut, hein, justement, hein, d'une projection géométrique. Hein,
non me mueve, mi Dios, para quererte. Cielo que me tienes prometido, ni me mueve el infierno tan temido. Me mueve ver tu cuerpo tan herido, me mueven tus ofrendas y tu muerte.
Eh bien voilà, nous venons d'entendre et d'écouter La nuit obscure, tiré par Vicente Pradal, l'auteur, hein, c'est pas le chanteur, le ténor dont j'ai oublié le nom, et qui est tiré de San Juan de la Cruz.
De la Cruz. Oui. C'était une création, une résidence à Montauban.
Voilà, une sorte d'oratorio, voilà, qui a été créé d'ailleurs à Montauban. Il y a longtemps, de ça. Oui. Superbe. Alors là, j'ai choisi cette plage parce que après la révolte de Vysotsky, nous avons entendu tout à l'heure.
Oui, le vol arrêté.
Il me fallait le vol arrêté. Il fallait introduire maintenant le sens, cette espèce de spiritualité, cette aspiration sur un socle d'apaisement. Et dans ce morceau que nous venons d'entendre, nous avons cet appel, on sent, hein, notamment dans le final, hein, comme un cri, hein, mais qui n'est pas un cri de douleur, hein, qui est un cri d'attente, hein, pour, justement, recevoir quelque chose. Hein, mais il y a aussi quelque chose qui est apaisé derrière.
Merci Christian. Nous sommes toujours avec Christian Andréaki, sculpteur. Et tu le signales dans tes fiches, sculpteur professionnel depuis 30 ans. Est-ce qu'il existe des sculpteurs non professionnels? Qu'est-ce qui fait l'adjectif professionnel?
La notion de professionnalisme, il faut la relativiser. Il y a des gens qui sont des amateurs très très avertis. Rosendo, tu le sais bien, toi aussi, dans le domaine du dessin ou de la peinture, mais qui ne souhaitent pas devenir administrativement professionnel. Donc, être un professionnel, ça veut dire que l'on vit, bien sûr, de son travail, qu'on a des revenus associés à ce travail, que l'on déclare à l'administration avec différentes statuts professionnels, numéro Siret, tout le bazar et son train. Voilà la seule différence. Moi, j'ai des praticiens que j'ai depuis, j'ai créé l'espace Bourdel il y a...
Justement, je voulais en parler.
Ah, pardon.
Oui, justement, je voulais en parler parce que l'espace Bourdel, c'est une de tes œuvres.
Oui, absolument.
Oui.
Absolument.
Donc, plus de 10 ans.
15 ans.
15 ans.
On a fêté l'année dernière en faisant un festival de la sculpture, justement, à Montauban.
Oui. Alors, le festival de la sculpture, je te transmets notre ressenti des praticiens aussi du public. Et, par rapport à l'année dernière, il y a eu, c'était un festival qui était assez riche et international. C'est-à-dire qu'il y avait beaucoup de sujets et de techniques qu'on ne voyait pas souvent. Et un des reproches qu'on m'a fait de transmettre, c'est que parfois, quand on dit Espace Bourdel expose à l'ancien collège ou à le festival à l'Orchante, alors on va encore revoir les mêmes œuvres ou les mêmes artistes. Alors, je préfère que ce soit Christian Andréaki qui réponde devant ces observations.
Alors, les mêmes œuvres, certainement pas. On parlait tout à l'heure de renouvellement. Là aussi, si on veut renouveler à tout prix, on trouvera les artistes dignes de ce nom, puisqu'il y a toujours une sélection, ça me semble naturel. Le festival lui-même, c'était une rencontre transrégionale de sculpture, et tous les collègues sculpteurs du Grand Sud ont tenu à s'associer à cette manifestation pour le 15e anniversaire de l'espace Bourdel de sculpture. Voilà. Par ailleurs, si on va dans le sens des expositions, qui ne sont pas d'ailleurs qu'à l'ancien collège, on a changé de lieu, on a fait une très belle exposition, peut-être on va renouveler peut-être une petite transition là, au parc et jardin, au serre municipal, le visage est un paysage
oui.
Où d'ailleurs Rosendoli a participé.
Oui, je confesse, je plaide coupable.
D'ailleurs, tu es quelquefois parmi les nôtres, avec grand plaisir. Et donc, je ne sais pas du tout ça aussi, ce renouvellement perpétuel, à force de se renouveler, il n'y a plus rien. On arrive au squelette, à force d'enlever des... Bon. Alors, je crois, comme dans tous les milieux, je crois qu'il y a des praticiens, des artistes qui font un travail personnel avec leurs pattes. C'est aussi ce qui fait la validité d'une démarche. Chacun doit trouver justement une sorte de d'éléments qui ne vaut que pour lui. Et c'est aussi à travers cela, je ne veux pas faire une histoire de l'art. On reconnaît bien sûr les grands noms de la littérature, de la danse, de la musique, de la sculture et autres.
Revenons à Bourdel parce que c'est l'artiste dont tu as voulu en parler. C'est non seulement l'espace Bourdel que c'est ton œuvre, c'est bien sûr tu le fais avec une équipe, bien sûr. Mais Antonin Bourdel, Et pour te parler d'un peu de ce qui s'est passé récemment en 2013, il y a eu une mise en enchère des ventes de sa correspondance.
Ah
de
oui, quelques... Toulouse, oui.
Oui, oui. Et bon, non, je ne parle pas des regards insolites, que c'était un travail d'espace pour ça. Je parle à niveau
oui,
de
oui,
son,
oui,
un élément des de ventes. Et parmi ces lettres, qui c'était à peu près côté à 300 à 500 euros, la lettre
oui.
originale oui, pour le départ, etc.
Oui,
bon,
oui.
peu importe, hein, oui. ce qui m'intéresse, c'est les contenus. Et il y a une des lots, je l'ai noté, les lots, c'est 95, il est daté 1897, où Brudel parle du soutien des Rodin à son sculpture
oui,
des monuments aux morts, parce qu'il avait créé, il était vis-à-vis devant les édiles du conseil municipal de Montauban à l'époque, et parce que ça créait des polémiques. Mais, bon, je parle de cette lettre qui a été vendue, qui a été mise en exergue, mais aussi je parle de la correspondance qu'il avait eue aussi avec les notables des contemporains à lui,
oui.
où, étant donné que tu admires autant l'œuvre artistique de Brudel et autant ses écrits, parce qu'il écrivait.
Ah,
l'écrivait
oui.
Alors, est-ce que dans le contexte historique de Brudel, où il donnait importance au réseau, parce qu'il avait demandé quand même, il n'était pas très modeste, il demandait la reconnaissance officielle, on va dire professionnelle, puisque nous parlons là de la Légion d'honneur, il savait l'importance du piston, il savait l'importance des recommandations de l'un
oui,
à l'autre. Est-ce que,
oui.
comment tu te positionnes là-dessus? Autant dans l'époque comme dans l'action contemporaine.
Oui, Brudel, c'est pour moi une énigme. Et une énigme intéressante. Hein. Ce petit garçon qui sort de l'école à 13 ans, hein, sachant à peine, comme il dit, je n'amenais que ce que j'avais découvert moi-même. Enfin bon, avec un maître d'école très attentif et qui le laissait faire, il disait à ses parents, ben, il dessine tout le temps, il fait, bon, je le laisse faire, bon, etc. Donc, quasiment, pas d'instruction. Hein. Montre très rapidement, bon, outre quelques aptitudes. Il rentre hein, dans l'atelier de son père, qui était menuisier ébéniste. Hein, voilà. Quelques personnalités locales repèrent ce petit garçon, là, cet adolescent, hein, qui semble avoir quelques qualités hein, à pousser la gouge. Hein, suggère à ses parents de tenter le concours donc des Beaux-Arts, hein, l'école des Beaux-Arts de Toulouse. Il y rentre avec une bourse en plus de la ville de Montauban hein, à 15 ans. C'est surprenant aussi, on peut pas imaginer à notre époque.
Donc l'énigme a commencé déjà pour toi.
Comment?
L'énigme Brudel, les mystères
oui,
Brudel.
Et c'est quelqu'un qui d'emblée marque un intérêt, non, outre pour le métier, il apprend son métier, il le dit d'ailleurs dans ses écrits, nous n'avons pas des professeurs très créatifs, hein, mais qui nous apprenaient rudement le métier. Et ça, je trouve, c'est très bien.
L'art, ouais,
l'art il l'a dit d'ailleurs bien plus tard, oui. L'art est un métier, je le crois.
Mm-hmm.
Hein, un métier dans le sens hein, où il faut travailler hein, et pas rêver ou attendre l'inspiration. Beaucoup de transpiration.
Ah oui, beaucoup
autres.
Plus de transpiration. L'inspiration n'existe
et
pas.
Et donc, il apprend son métier et il est très sensible d'emblée à la poésie, à l'écriture. On ne sait pas trop, voilà, il y a là quelque chose et qui, en quelque sorte, alimente son œuvre de sculpteur. Pendant 8 ans, quand même, son métier. Hein. Il n'a pas bac plus 8, hein. Il n'a pas son bac du tout. Il n'a rien à foutre. Mais il rentre, hein, reçu second hein, à l'École nationale supérieure des Beaux-Arts chez son compatriote Falière, hein, sculpteur toulousain bien connu.
Très classique, lui.
Comment
hein, Falière, très, très classique, lui.
Très classique, voilà.
Oui.
Extrêmement, oui, voilà. Et Bon, je vais très vite. Bon, mais
oui, oui, s'il te plaît, parce qu'il faut écouter ta dernière chose.
Pour l'écriture, c'est ce que je trouve très très intéressant chez
Baudelaire. C'est très intéressant ce que tu dis, mais il faut le temps court.
Et donc, son compatriote, hein, Père Bosque, Antonin Père Bosque,
oui. Hein,
qui est le fondateur quand même de l'Occitanie.
Mais oui, dans son élève, c'était Félix Castaing, voilà. Entre autres, que tu as connu.
Eh bien, il correspond. Bon, il y aurait des lettres truculentes là, oui. Il faudrait parler. Hein. Bon, et jusqu'à lui dire en 14 justement dans une lettre fameuse que je le veuille ou non, hein, malgré un français approximatif d'autodidacte, bon, il joue un peu sur le
terme,
hein, que je le veuille ou non, je sculpte en langue d'oc. Et c'est et donc cette correspondance hein, a poursuivi cet appétit pour l'écriture. Alors après, il va rencontrer bien sûr quand même Anatole France, hein, quand même Bergson, quand même
Rodin.
Bon, Rodin. Là, c'est plus l'écriture. Là,
oui, c'est un autre type d'écriture.
Voilà, c'est un autre type d'écriture. Eh bien, nous, avec ce troisième morceau, nous avons rencontré, bien entendu, Callas dans un passage fameux d'un opéra de Bellini, La Norma. Pourquoi j'ai choisi cette plage musicale ? Eh bien, ça vient en conclusion des deux autres plages, à la fois La Révolte, hein. C'est dans la pratique, je dirais, créative, hein, toujours quelque chose, je disais, là, de douloureux, de révolté. Il y a ensuite l'aspiration à quelque chose, hein, dans Vicente Pradal, hein, La Nuit Obscure, et sur un socle d'apaisement, il faut s'apaiser. Et enfin, la troisième, hein, troisième moment, c'est le sentiment d'élévation. C'est-à-dire on est porté par quelque chose. On n'est plus soi-même. Hein? C'est autre chose qui nous guide, qui nous donne une dimension qui peut-être caresse un sentiment de bonheur. Peut-être.
Donc, dans ces sentiments de bonheur, tu as inclus aussi l'effort de faire un métier. Donc, il y a les côtés douleur, il y a les côtés on n'est plus soi-même, tu viens de le dire. Il y a aussi un petit peu de bonheur. Et donc, tous ces ingrédients-là, il me semble, tu vas me détromper, si c'est le cas, il me semble que tu ne le retrouves pas dans la plupart des manifestations de l'art contemporain, surtout quand on dit plasticien. Pour toi, c'est un mot qui te révolte. Allez-y, vas-y, vas-y.
Ah oui, il y a ce que j'appelle les plasticiens. Mauvais jeu de mots.
Oui, mais que tu vas développer.
Et la plastiquerie. Oui, c'est un fourre-tout que je trouve assez lamentable. Alors, il s'agit pas... Bon, je serais mal placé, moi qui touche à la musique, qui touche à la danse, qui touche à la sculpture et à l'écriture, pour, comment dirais-je, vilipender tous ceux qui touchent un peu à tout. Mais plasticien, on a fait maintenant... C'est les arts visuels. Or, on ne fait qu'inventer des termes. Hein. Il y a eu les beaux-arts, comme s'il y avait les arlés. Hein, bon. Alors que la peinture, ça veut dire quelque chose. Le dessin, ça veut dire quelque chose. La sculpture, ça veut dire quelque chose. Alors, autant revendiquer... dans chacune des composantes de l'art, ou écrivain, ou enfin bon... Et c'est pour ça que c'est un peu agaçant, parce que c'est un terme tellement interlope.
Tu parles des plasticiens.
Comment ?
Tu parles des plasticiens ou oui, plasticiens, de la vidéo en particulier.
La plasticuerie, ce que oui, je fais, la plasticuerie, c'est-à-dire ça fourre tout.
Oui, des services
en particulier. Alors, il se trouve, je suis au syndicat national des sculpteurs, et alors ils ont dû rajouter quelques années « et plasticien ». Parce que certains sont bon.
Tu penses que c'est la mode,
c'est la mode, c'est voilà, la mode. Bon. Et c'est très dommage, parce que j'imagine que des gens dire de Bourdelle c'est un plasticien, c'est pas pour moi, c'est pas la garantie d'un regard sur son travail.
Bien, merci pour toutes ces positions assez claires. Sur la plastiquerie ou les plasticiens, comme tu dis.
Oui. Mais ça, c'est les avatars aussi de l'art contemporain, dit contemporain. Alors, nous sommes contemporains.
Ah, parce que nous sommes vivants.
Donc, il y a une fatalité à être contemporain.
Oui, mais ça ne suffit pas.
Je veux dire, il n'y a rien, mais il y a une connotation. On est passé là aussi. Il y a une très belle, il faudrait que je retrouve ça, très belle phrase de Baudelaire là-dessus, sur ce qui est permanent. Et ce qui est factuel, ce qui est qui est inscrit dans une actualité. Mais je le dis, on poursuit un chemin, on trace un sillon, et notre rôle, alors ce sillon n'est pas forcément droit, il y a aussi comment dirais-je, être dans cette époque où dire je suis artiste contemporain, ça ne veut rien dire. On est forcément contemporain.
Oui, mais Christian, dans la notion contemporain, il y a connote aussi
ouais,
la technique.
Il y a une connotation. Oui,
ça connote effectivement non seulement le fait qu'on soit vivant, mais aussi les outils qu'on utilise. Parce que, oui. Par exemple, maintenant, on utilise la vidéo, on utilise l'installation. Okay. Mais je ne pense pas, je ne suis pas d'accord dans le sens que tous ceux qui utilisent la vidéo ou l'installation soit nécessairement de la feignantise, ou qu'il soit complètement en dehors du métier. Mais je pense qu'existe cette imposture ou cette espèce de contrebande lorsqu'il y a un manque de sens ou une imposture pour jouer avec la mort.
C'est ça.
Mais alors, tu sais, le temps passe, mais il faut que tu passes il nous reste que 2 minutes, il faudrait que tu passes les liens,
non, mais je
la manière
dire quand
comment
même,
comment
en une phrase, j'ai une formule qui vaut ce qu'elle vaut. Je ne suis contre rien, je ne suis pas pour tout. Des installations, mais bien sûr, mais dans la mesure où ça a du sens, où c'est pas un verbiage. Bien entendu que il y a des orientations, pour, par exemple la vidéo, les choses comme ça, qui sont tout à fait intéressantes. Et les matériaux de ce temps, il faut s'en servir. Les moyens de ce temps, il faut s'en servir. Mais avec discernement. Voilà pour le...
Tu es très clair là-dessus. Et donc, on passe à tes annonces pour l'actualité de l'Espace Bourdel. Ton actualité, tes œuvres, tes projets.
Alors, l'actualité.
Les... Oui. Si tu peux faire vite, je suis désolé, mais très peu de temps.
Nous
Merci.
Reprenons, outre que nous participons, nous sommes des acteurs culturels de cette ville, de ce département, de la région, bien entendu. Donc nous sommes présents en partenariat avec d'autres associations. Notamment, on a fait un très beau travail avec... Lettre d'automne qui était sur Camus cette année, un bel hommage à Camus, et on a eu carte libre pour illustrer justement l'homme révolté, hein, avec une performance sur justement par le performance hein, monter un homme révolté en plâtre sur le plateau du théâtre. En juin prochain, nous reprenons nos expositions régionales habituelles. Et toujours à thème. Donc le thème cette année, nous allons épuiser les ailleurs. Et le thème de cette année, transfiguration et métamorphose. Et alors il y a un petit codicille pour donner quelques pistes, monstres et chimères. Voilà, ça donne, donc c'est en juin, à la mi-juin de cette année. Et alors si il y a quelque chose qui peut me concerner, bien sûr... Deux, justement, puisque tu me fais les signes, en effet, j'ai écrit, on a fait un film sur, justement, l'orchestre d'une tragédie, le monument de 70 de Bourdel, donc j'ai écrit un petit ouvrage là-dessus pour présenter la chose. Là, je viens de sortir un ouvrage sur Pénélope, la grande Pénélope, hein, et il va y avoir un film, d'ailleurs, qui va suivre. Et alors, me concernant... là, j'ai eu la commande d'un monument, encore un, pour, là, je connaissais pas ça, des anciens combattants. Ça existe encore, bon. Hein, qui va être installé sous peu, donc dans le carré hein, de mémoire voyez, du cours Foucault.
Voilà. Merci beaucoup à Christian Andréaki. Merci beaucoup à vous tous et aussi à la technique avec Aurélien. Et je vous retrouve la semaine prochaine. Merci Christian.
Les rendez-vous de Rosendo, c'est tout, les dimanches à 13h, rediffusion le mardi à 23h, et vous retrouvez tout ça aussi en podcast sur cfmradio.fr.